la grande table. Olivia Jesbert.
Après Sans entrave et Son temps mort et Réanimation, Cécile Guilbert revient avec Les Républicains chez Grasset, le récit en temps réel des retrouvailles de deux anciens camarades de Sciences Po 30 ans après. Elle, c'est la fille en noir, comme l'auteur, écrivaine de publications confidentielles. Je n'avais guère et je n'avais pas fait mon trou dans les ruines de ce que les clercs continuaient d'appeler la République des Lettres. Lui, c'est Guillaume Fronsac, la classe, ancien énarque devenu banquier d'affaires, devenu conseiller politique. Il gravite dans les plus hautes sphères, dans l'ombre des puissants. Dans Paris, il se retrouve. Ils se racontent et font le bilan d'une France en décomposition. En direct de Bayonne, merci à nos confrères de France Bleu Pays Basque de vous accueillir. Chabi Molia est aussi avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Cécile Guilbert, je vous ai même pas salué. Vous êtes l'auteur Chabi Molia de « Avant de disparaître » et de « Grandeur de S » entre autres, et vous signez aujourd'hui « Les premiers au seuil » dans une France en crise, cette fois ou toujours, surgissent de la foule des humiliés, des super-héros. Ce qui les rassemble, un faisceau commun de talents héroïques, le vol, la puissance physique, une endurance et une adresse décuplée. Ils signent avec le gouvernement, ces super-héros, un contrat d'exclusivité. Avec eux, la France va peut-être enfin retrouver un peu de sa superbe. Chabi Molia, vous êtes prêt pour aller bosser chez Marvel, vous hein?
Ben, je ne sais pas s'ils prennent des
scénaristes français, comme vous. Vous êtes peut-être pas assez optimiste encore pour eux, non?
Ah, peut-être. Encore qu'il y a des choses très sombres hein, maintenant chez les super-héros américains. Ils vont très mal depuis quelques années. On le voit sur les écrans de cinéma.
C'est vrai, comme
Batman,
le monde qui les entoure.
Très déprimé.
Ouais, pauvre Batman. Mmh. Trop dark peut-être. Hein.
Trop dark.
Bon, vous à Paris Match, Cécile Guilbert, ça pourrait peut-être vous ressembler. Vous avez une connaissance assez impressionnante du tout Paris que vous nous décrivez dans ce livre. Ce petit monde qui fonctionne quand même vraiment et sacrément en vase clos. Hein. C'est ce qu'on perçoit aussi à travers ce roman que vous signez, Les Républicains. Vous le regardez de l'extérieur, ce petit monde, ou vous en faites partie?
Je pense que je le connais comme beaucoup de gens qui lisent des livres de journalistes ou qui lisent la presse, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce petit monde ne cesse d'être l'objet d'une chronique lui-même par les journalistes. Il y a une sorte de storytelling de l'establishment. Donc il suffit, bon, après d'aller... J'en fais partie dans la mesure où je suis parfois obligé, parce que je suis écrivain, de côtoyer un certain nombre de ces personnages, puisque la France a cette caractéristique majeure. D'avoir toujours, encensé ses écrivains. Il y a un côté comme ça autour de la littérature, il y a une sorte d'excitation de la bourgeoisie autour de la littérature. Et d'ailleurs, beaucoup des membres de ce milieu veulent écrire. Donc je les côtoie, mais je n'y appartiens pas.
Il y a deux générations, Chabi Molia, de super-héros dans votre livre, et notamment la première génération des super-héros dites les 83. Votre roman à vous, Cécile Guilbert, s'inscrit aussi ou a comme point de départ ces années 80, où nos deux personnages, vos deux héros, la femme en noir et le redoutable Fronsac, se sont rencontrés quand même dans une promo ensemble à Sciences Po, la fameuse promo 86, qui a déjà fait l'objet d'un livre de la journaliste Ariane Chemin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 80. Est-ce que ça a été les années du tournant pour vous deux, Cécile Guilbert?
Je pense que dans les années 80, on a vu plusieurs phénomènes. En ce qui concerne la haute administration d'où est issu mon personnage, c'est vrai qu'on a vu dans les années 80 de plus en plus d'énarques ou de gens formés pour le service de l'État qui sont allés pantoufler dans le privé, qui n'avaient plus forcément peut-être ce feu sacré qu'avaient les énarques après la guerre, en fait. Hein. Et puis, il y a eu aussi des mutations du capitalisme français qui ont fait qu'il y a eu comme ça ce système d'aller-retour entre le privé et le public, avec des intérêts croisés, des conflits d'intérêts, enfin bon, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, sur le plan politique, qui est maintenant plus celui des cabinets, enfin de ce monde feutré, on a quand même vu un président Mitterrand instrumentalisant le Front National, ayant un deuxième mandat comme ça un petit peu décomposé. Je me souviens que déjà à l'époque on disait mais c'est la décomposition, on pourra pas aller plus loin, mais en fait on est allé plus loin puisque 30 ans plus tard on voit vraiment les effets concrets de cette décomposition. Et je pense que à la suite du deuxième septennat de Mitterrand, les présidents se sont fait élire globalement, même s'ils ont fait des choses, hein, il ne s'agit pas de tous les jeter dans un sac d'opprobre, mais je pense qu'il y a eu la trahison des promesses, des programmes, des présidents, et une sorte comme ça de désillusion qui s'est emparée du peuple, même si bon, le peuple est un vocable voilà, un petit peu trop générique. Enfin bon, il y a eu quand même toutes ces crises perpétuelles. En fait, on a l'impression qu'en fait la crise était devenue le destin des classes moyennes et que à chaque président élu, il s'agit toujours de l'austérité, de serrer la ceinture et que les choses ne s'améliorent pas et le Front National prospère. Donc, si vous voulez, la trahison peut-être d'une partie des élites, parce qu'il ne s'agit pas de faire un procès aussi des élites au sens général. Quand on dit les élites, les élites du pays, c'est pas seulement les énarques ou les banquiers et les financiers, c'est aussi les intellectuels et les personnalités qui ont du talent dans le pays. Donc, cette partie de ces élites, la trahison des promesses politiques et une espèce comme ça de cynisme à tout va, je crois que c'est ça qu'on a vu pendant 30 ans.
Chabi Molia, ces années 80, elles résonnent d'une manière particulière aussi pour vous ?
Parce que... Moi, j'avais 3 ans en 1980, donc c'est pas tout à fait le même point de vue. Je me suis plutôt demandé ce que ça voulait dire d'appartenir à cette génération qui a grandi dans les années 80, puis les années 90. Alors, assez vite, je me suis dit qu'il fallait que je me méfie aussi de la notion de génération, parce qu'une génération, c'est pas parce qu'on est né dans les mêmes années qu'on partage les mêmes conditions d'existence. Il y a plein de différences culturelles, sociologiques, économiques entre nous. Mais malgré tout, il y a peut-être quand même des points communs. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'appartenir globalement à une génération dépolitisée, ou en tout cas qui a un rapport assez distant à la politique, en tout cas qui n'a pas eu d'idéologie, qui n'a pas eu de doctrine. Alors je ne sais pas, peut-être que j'idéalise la génération d'avant, peut-être que je m'émerveille un peu trop sur la génération d'après, par exemple les gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, que je trouve plus critiques, et plus virulents et plus inventifs que ma génération.
Et pourtant, la question politique est au cœur de votre roman.
Bah oui,
vous n'êtes pas dépolitisé, en tout cas comme romancier.
Non, mais c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on fait politiquement. Donc en l'occurrence, moi j'ai essayé de prendre la question du pouvoir de manière très littérale. Ce sont des super-héros, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et s'ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent peut-être changer beaucoup de choses aussi à l'état de la société française. Simplement, ils le font à partir de ce qu'ils sont, c'est-à-dire sans grande... connaissance, disons, peut-être des alternatives, sans grande doctrine affirmée, sans idée préconçue, voilà. Et donc, ils se heurtent aussi à la difficulté de changer les choses quand on est simplement des individus avec de bonnes intentions.
Vous partez l'un et l'autre d'un même constat, celui d'une France quand même en déclin, victime d'une forme d'effondrement symbolique. Chabi Molia, votre narrateur, résume bien la situation et même assez froidement. La France, il faut le dire, à part les djihadistes, tout le monde s'en foutait. Ça, c'est au moment où les super-héros vont commencer à surgir. Cette question
J'espère quand même que je ne suis pas déclinologue.
On va en reparler, Cette question des générations, Cécile Guilbert, c'est la question de savoir la faute à qui, hein. Est-ce que c'est une affaire de génération? Fronsac le pense, plus le temps passe, plus le temps se fracasse et plus je pense que notre génération a une part de responsabilité dans ce désastre. Elle, la femme en noir, puisqu'on est dans un dialogue entre les deux, dialogue à la fois intérieur et ouvert, elle lui répond « Notre génération, tu sais ce que mon éditeur a dit de ce mot, tout individu, mâle ou femelle, qui parle de sa génération est un crétin qui veut déjà avoir de l'avancement dans la corruption. » C'est pas une affaire de génération ?
Non, je pense que honnêtement, je suis un peu comme Monsieur Molia, c'est-à-dire que j'ai du mal à me penser dans le cadre générationnel. Mais évidemment, quand on fait un bilan et qu'on voit des camarades de promo, bon, forcément, il y a ce petit effet générationnel. Parce qu'effectivement, on a vécu des événements historiques au même âge, mais qu'on en a des perceptions et on a aussi des réalités existentielles différentes. Je pense pas que il faut faire le procès d'une génération. Je pense que quand un pays s'enfonce dans le déclin ou qu'il pense à tort et à raison qu'il n'est plus rien ou qu'il a oublié toute mémoire, de son passé, de sa littérature, enfin des tas de choses, quoi. Je pense que c'est l'affaire de tous les citoyens, pas d'une génération.
Deux romans sur la décomposition politique et sociale de notre France. Pourquoi ce besoin de proximité comme romancier avec le réel, Cécile Guilbert ?
Parce que le réel, c'est quand même, parfois, il est plus fort que toutes les fictions. Et je trouve que depuis quelques années, la réalité politique et des événements auxquels nous assistons est d'une puissance assez grande, qui est démultipliée évidemment par l'écho médiatique qu'elle rencontre. Enfin, je sais pas, depuis la chute de DSK jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que ce storytelling passionne les foules et que la littérature peut-être peut prendre aussi sa part là-dedans avec un surcroît de puissance en fait, parce que c'est imprimé, qu'il y a une langue à l'œuvre pour le dire. Personnellement, je trouve que la politique française est assez romanesque pour pas qu'on invente des histoires à l'intérieur de choses qui sont déjà très très romanesques. Pour revenir sur cette histoire de décomposition, oui, je pense qu'on a tous notre part et
notre part et, de quoi, de responsabilité.
Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est un facteur aggravant en France, c'est qu'il y a un vrai hiatus, si vous voulez, entre la puissance symbolique, à tort ou à raison, supposée au président de la République et cette espèce comme ça de cadre de monarchie républicaine et la réalité. Symbolique de ceux qui l'ont exercé récemment. Et je pense que les deux, honnêtement, les deux quinquennats récents, outre qu'ils ont effectivement un petit peu perverti les institutions dans la mesure où il n'y avait pas cette continuité dans le temps et que maintenant le temps s'est accéléré, les hommes qui ont été à la tête du pays ont illustré particulièrement par leur faiblesse ou par leur défaut de compréhension de ce qu'était le pays, la charge symbolique que ça supposait. Et donc là, le roi est apparu encore plus nu qu'il n'était, parce que, indépendamment du fait que, symboliquement, le roi est nu aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où, effectivement, peut-être le président de la République française est moins que ce qu'il peut imaginer, compte tenu des contraintes extérieures, des marchés, de la mondialisation, etc. Mais je pense que là, ça s'est vraiment dénudé, il est même plus que nu, il est écorché, quoi.
C'est intéressant juste sur cette place, sur le rôle du romancier, de l'écrivain, dans ce témoignage aussi du réel, c'est que vous faites finalement, Cécile Guilbert, le contraire, ou en tout cas tout ce que votre alter ego de plume refuse de faire, c'est-à-dire vous écrivez, et là je vous lis, des histoires, c'est Fronsac hein, qui veut absolument qu'elle écrive des histoires, des fictions, qu'elle s'empare d'un fait divers ou d'un people, qu'elle trouve le bon filon dans le réel, le documenter façon reportage, l'effeuiller façon striptease, flatter en miroir l'avidité ou le voyeurisme avec toute cette passion que les auteurs mettaient à enfiler du name-dropping, brasser du biopic, se titiller l'identité ou causer sociologie. C'est-à-dire en fait faire des livres qui parlent de nous, mais dans lesquels on a l'impression de pouvoir éventuellement se retrouver et voir aussi à travers le petit trou de la serrure, quelque part. Hein.
Je pense que c'est une vraie idéologie littéraire pour le coup, cette prime toujours donnée à la sociologie, au biopic, etc. Je pense que c'est à la fois le fruit d'une... Enfin, peut-être qu'après tout, les jeunes individus d'aujourd'hui n'ont plus la vie intérieure qu'avaient leurs aînés, n'ont plus le recul mémoriel, n'ont plus et tous les ingrédients qui faisaient les écrivains du passé. Peut-être qu'ils sont effectivement pris dans un présent perpétuel, dans un flux d'informations et qu'ils cherchent des sujets de romans qui sont peut-être pas connectés directement à leur intériorité. Et ça, c'est peut-être effectivement une mutation, ce qui fait partie de la grande mutation anthropologique qu'on connaît depuis une vingtaine d'années.
Alors comment fait-on pour pas se noyer dans le réel? Vous, il y a la fonction du doute qui agit comme une mise à distance, hein, Cécile Guilbert, dans votre roman Les Républicains, et vous, Chabi Molia, de la fantaisie peut-être, c'est pour ça que vous en introduisez tant l'un et l'autre dans vos romans, l'un le doute, l'autre la fantaisie.
Chabi Molia. Moi je sais pas très bien... Qu'est-ce qui est le point de départ d'un livre, en fait? Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au réel. On choisit pas d'être proche ou loin du réel, on est dans le réel et c'est tout. Et donc on finit toujours, il me semble, par être ramené à la politique, à la France, à la société dans laquelle on vit. Moi, simplement, depuis quelques livres, ce que j'essaie de faire, c'est pour en parler d'une manière qui me convient. J'en parle à partir d'une hypothèse impossible, ou en tout cas inédite, jamais avérée. Donc, par exemple, l'apparition de super-héros. Et c'est comme une hypothèse, je dirais presque de laboratoire, sauf que je suis pas un laborantin, je suis juste quelqu'un qui a envie de raconter des histoires. Mais ça me sert à révéler. Je trouve que ça met tout d'un coup la France dans un état extrême. Donc, par exemple, l'apparition du super-héros, ça crée de la stupeur, ça crée du bouleversement. La vie de ces gens-là change, mais leur présence nous fait changer aussi. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça révèle, en fait. Qu'est-ce qu'un événement critique, comme ça, révèle d'une société qui, tout d'un coup, est mise en tension par cet événement. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéressait, finalement, je m'en aperçois... après avoir écrit ce livre, c'est de parler du rapport au surhomme ou du rapport au grand homme. Je pense que la France aujourd'hui est encore dans un rapport aux grands hommes qui est peut-être l'héritage de la monarchie. Mais je pense que par exemple, ce qu'on a beaucoup reproché à François Hollande, c'est de refuser d'être un grand homme. Et c'est intéressant parce que ça questionne complètement aussi notre rapport à la démocratie, où on n'est pas censé être dans le culte des grands hommes. Et pourtant, on en a encore profondément le besoin.
Justement, est-ce qu'on manque aujourd'hui de grands hommes? Il y a une grande voix qui réapparaît dans votre ouvrage, Cécile Guilbert, c'est celle de Malraux. Et là, il était place de la République.
Ce qu'est pour nous la République, nous ne l'avons jamais si bien compris que pendant les années d'occupation. Sur les socles déserts, la vieille voix alors sans visage disait « On a pu chasser mes effigies, mais nul n'a pu les remplacer. S'il n'est au pouvoir de personne de m'arracher du cœur des Français, ce n'est pas parce que je suis pour eux le souvenir de jeux politiques désastreux qui ont mis sur ma face victorieuse le masque de la défaite. C'est parce qu'absente ou présente, Français, je suis une part ineffaçable de votre fierté fraternelle. »
Cécile Guilbert, belle manière d'entendre parler de la République, quand même, dans la voix d'André Malraux. Qui sont les républicains aujourd'hui pour vous, Cécile Guilbert? Nous tous? Qui pour redonner ses lettres de noblesse à la République?
Ben oui, nous tous, bien sûr. Mais pour moi, la France, c'est plus que la République, en fait. C'est ce que j'essaye de faire passer dans ce livre. Je pense que tous ces débats sur l'identité nationale, le roman national, sont viciés, sont idéologiques, bêtement, quoi. C'est-à-dire que la France, c'est beaucoup plus que la République. La France, c'est un long passé, ce fut un royaume. Et moi qui m'intéresse pas à la République des lettres, parce que je trouve que la République des lettres, c'est pareil, c'est une expression, voilà, qui fascine le clergé intellectuel, mais qui est assez décomposée aussi, qui s'intéresse à la langue française, en fait. C'est même pas la littérature, c'est la langue française, cette langue qui vient de si loin, qui a de tant de strates historiques. Le français de Montaigne n'est pas celui de Marivaux. Le français de Saint-Simon n'est pas celui de Malraux. C'est ça qui me soucie. Et je pense que les hommes politiques ne savent absolument pas quelle est la singularité française. En fait, ils sont à la tête du pays, ils prétendent le gouverner. Je pense que les Français sont extrêmement fiers de leur langue. D'ailleurs, ils ont donné souvent des primes à des tribuns, sous prétexte qu'ils maniaient bien la langue française et quelles que fussent leurs idées politiques. Et donc, moi, c'est ça qui me passionne, un pays dont l'identité s'est forgée à travers un certain nombre d'hommes maniant la langue française, qui n'étaient pas forcément des romanciers, qui étaient des mémorialistes, qui étaient des chroniqueurs, qui ont fait que la France a toujours pensé son histoire à travers des livres, en fait.
C'est ce qui vous fascine et en même temps c'est ce qui vous désole, c'est justement cette perte.
Ça me fascine parce que je pense que c'est vraiment l'identité française, ouais, est là, et donc ça vient de très loin. Et en même temps, cette capacité à s'emparer de la langue, alors peut-être pas à la Malraux qui est un peu drapée, un peu pompeuse et qui nous ferait rire aujourd'hui, mais cette capacité à s'emparer de la langue, à la penser, à s'exprimer, à manier la rhétorique est effectivement totalement effondrée.
Chabi Molia, j'imagine que vous ne contredirez pas sur ce point-là Cécile Guilbert, vous qui vous êtes fait la plume de Nicolas Sarkozy dans Grandeur de S, le poète de l'homme politique.
Non, mais après, je sais pas ce que vous entendez par effondrement. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'un effondrement. Je pense que c'est pour ça que la notion de déclin, par exemple, moi, j'ai grandi avec la crise, donc j'ai l'impression que la crise c'est presque une constante de notre histoire, en tout cas de la mienne. Et donc j'ai pas du tout l'idée d'un déclin de la France.
Pas de la France, mais de la langue.
Déclin de la langue, non. Je pense que la langue, elle se renouvelle. C'est un corps vivant. Et après, ce qu'on peut observer, c'est que d'abord, la langue française, elle a toujours été multiple, elle a été utilisée de manière très différente, et il y a peut-être effectivement des usages et une certaine éloquence et un certain type de parler du parler français qui ont disparu. Mais pour autant, j'ai pas le sentiment que la langue disparaisse ou qu'elle s'affaiblisse. Je pense simplement que elle se renouvelle. Alors après, peut-être qu'elle change d'une manière qui nous plaît pas, et ça chacun.
Chabi Molia, Cécile Guilbert voulait discuter sur ce point avec vous.
Non, je
rappelle que vous êtes à Bayeux. virtuelle, c'est pour ça qu'on a un dialogue virtuel.
Non, non, mais je me suis mal fait comprendre. Je pense absolument pas que la langue française s'effondre. Je pense qu'elle a sa vitalité et je suis absolument partisane de qu'elle soit traversée par d'autres idiomes et aussi des choses. Voilà. Et c'est justement pour ça, parce qu'elle a toutes ces traces historiques. Je pense qu'elle s'est effondrée dans la bouche des politiciens. Écoutez, quand chaque politicien s'estime en capacité de porter un projet, et que moi j'ai écrit des discours politiques dans ma jeunesse, donc j'ai bien vu un peu comment ça se passait. Et la fille en noir raconte cette expérience d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a un aplatissement, il y a comme une volonté de. Écoutez, vous avez entendu parler Sarkozy et Hollande pendant des années comme des élèves de CM2 en disant la France elle est. Enfin, c'était de la bouillie quoi. C'était un symptôme. Voilà. Bon, on peut en rire, mais c'était un symptôme.
Et en même temps, c'est vrai que quand on entend la grande éloquence de Malraux, on se dit que
ça, c'est trop pompeux, mais je pense qu'on peut trouver un équilibre entre les deux.
Bien sûr, c'est certain.
Bon, on va le trouver dans la chanson française, vous allez voir. On va écouter tout de suite Fishback, le château. Elle est dark, la Fishback. Elle incarne pourtant à la perfection la jeune scène française. Elle chante en français, extrait de son album À ta merci. Elle sera en concert dans toute la France avec un passage à la Cigale à Paris le 14 mars.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il est aussi beaucoup question d'image dans vos deux romans, Cécile Guilbert et Chabi Molia. Question de communication, vos super-héros, Chabi Molia, sont entourés de communicants. La question de la maîtrise de son image est cruciale et on sent bien que c'est aussi une question d'époque. Dans votre roman, Cécile Guilbert, votre héroïne, la femme en noir, elle refuse de s'exposer. Elle estime que c'est pas comme ça qu'elle peut ou qu'elle a à exister. Et pour vous citer un extrait du livre, pas foutu d'avoir un site, de tenir un blog, d'ouvrir une page Facebook, un compte Twitter ou Instagram, incapable de gérer sa boutique narcissique, son épicerie égotiste, soi-disant indifférente au miroir de l'autopromotion et patette de gondole pour deux sous, fallait pas qu'elle vienne se plaindre, alors merde, les temps avaient changé et les bouquins, fallait arrêter de les sacraliser. Ça, c'est Guillaume Fransac qui parle d'elle, qui l'imagine, qui essaye de pointer ses faiblesses ou ses défauts. C'est intéressant, cette notion de boutique narcissique sur laquelle Chabi Molia, vous, vos super-héros, sont obligés de travailler pour exister. Hein.
Bah, c'est-à-dire que si on prend l'hypothèse au sérieux, enfin voilà, de super-héros français, très vite on se dit de quoi sera fait leur quotidien. Et, et, Et assez vite, on se dit, bah, en fait, qu'on va écrire, enfin, finalement, qu'écrire un roman sur des super-héros, c'est forcément écrire un roman sur des people, sur la peopleisation. Alors, je savais pas du tout que c'était sur ce thème-là que j'allais travailler pendant quelques années. Mais assez vite, c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire comment, des gens ordinaires basculant dans l'extraordinaire basculent aussi dans l'hyper-célébrité avec tout ce que ça, suppose de bah, effectivement de communication, d'exposition permanente, d'abolition de la frontière entre vie privée et vie publique, etc.
Cécile Guilbert,
ça fait pas très envie en fait.
Le monde de demain.
D'être un super.
Non, mais les super héros, ils ont quand même des destins. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre que j'ai trouvé bourré d'imagination et extrêmement intelligent. Mais c'est vrai que les pauvres, on voit bien très vite la négativité à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de French pride avec ces... Mais justement, c'est juste de la pride, en fait, de la fierté, parce qu'ils arrivent à se tirer de situations incroyables, et le pays leur est reconnaissant, mais finalement, ils sombrent très vite aussi dans un envers assez fatal. Alors que moi,
c'est peut-être pour ça qu'il faut se méfier aussi des hommes providentiels, de ces figures, de ces héros qu'on se cherche tous.
Je pense en revanche, mes deux personnages sont des individus qui cherchent à préserver leur secret, et la dimension du secret est très importante dans le livre. Non pas qu'il soit particulièrement secret, de tempérament secret, mais le dispositif du livre essaye de magnifier cette dimension du secret, de la clandestinité, en fait, qui est celle du désir et qui est celle de la vie intérieure.
Fléau, guerre civile, populisme, comme dans Avant de disparaître ou Reprise des hostilités, Chabi Molia, on vous sent quand même fondamentalement pessimiste et pourtant vous avez dit vouloir faire de l'anticipation qui ne soit pas du Orwell, qui ne nous ramène pas toujours aux années 30. Écoutons, et on va terminer par vos mots, ce qu'en dit Saïd, l'un de vos super-héros, qui essaye d'imaginer là encore l'avenir. Des émeutes, il y en aura peut-être à la rigueur, de plus en plus d'actes violents, mais isolés, suicidaires, comme les tueries dans les lycées américains. Pas de soulèvement à partir d'un projet, non. Il faut parler la même langue pour construire un projet et on l'a perdu, ou elle n'a jamais existé, je ne sais pas. En tout cas, quand on parle, on ne s'entend pas vraiment, on ne se comprend pas. Il n'y a plus de communauté, seulement de la coexistence dans des zones de plus en plus hermétiques, dans des rapports de plus en plus tendus. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors, lui pose-t-on comme question, à part jouir, je ne vois pas. Jouir du temps qui reste, jouir égoïstement avant la fin du monde, moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, en tout cas. Merci beaucoup, Chabi Molia, les premiers. Une histoire.
C'est mon personnage. Hein,
c'est votre personnage qui parle. Une histoire des super-héros français, un roman qui vient de paraître au Seuil. Merci mille fois, Cécile Guilbert. Merci. Les Républicains, roman qui vient de paraître chez Grasset. Et merci à Renaud Ricard, qui était à la technique aujourd'hui à France Bleu Pays Basque.